VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francis, midi à Bamako, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. Violence au Mali, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, condamne l'attaque qui a coûté la vie à 4 casques bleus bangladais hier dans le pays. Un incident survenu un jour après la mort de 6 membres des forces armées maliennes tués dans une explosion de mine. Plus de détails sur l'attaque contre les casques bleus et la mort d'un garde national malien de la nuit de mercredi à jeudi à Gao avec Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako.
Se rendre à Douanza n'est plus chose facile. Actuellement, le tronçon Mopti Douanza est miné. Douanza Boni est fatal. C'est ainsi qu'hier, un convoi de l'aménagement du contingent Bangladesh a sauté sur une mine. Le bilan provisoire indique que 4 casques bleus ont trouvé la mort suite à l'explosion d'une mine ou d'un engin explosif. 4 autres soldats de la paix ont été également grièvement blessés. Avec cette attaque, l'aménagement veut désormais renforcer son dispositif sécuritaire dans le centre du Mali, aux côtés de ses partenaires nationaux, régionaux et internationaux. À Gao, la nuit a été très mouvementée. Les jeunes étaient descendus dans les rues suite à l'assassinat d'un soldat malien devant la mosquée Kouet. Il était en poste au tribunal de Gao quand des hommes armés ont ouvert le feu sur lui. Des manifestations ont dégénéré après cet assassinat. Il y a eu 2 blessés graves qui ont été admis à l'hôpital régional de Gao. Finalement, les jeunes se sont dispersés très tard dans la nuit avant de se donner rendez-vous ce matin pour une grande marche dans la cité des Askia, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
On reste au Mali. Le processus de cantonnement, de désarmement et d'intégration était au centre d'un atelier à l'endroit des chefs de base des différents mouvements armés. L'objectif est de préparer un éventuel enregistrement des combattants. Reportage à Tombouctou de notre correspondant Abdoulaye Traoré.
La Commission nationale des mobilisations, désarmement et réinsertion poursuit ses activités à Tombouctou avec un atelier sur les documents et registres pour l'enregistrement des combattants. L'atelier est placé sous la présidence du gouverneur de région en présence du président de la Commission nationale de démobilisation, désarmement et réinsertion, Zahabi Ould Sidi Ahmed, accompagné d'une forte délégation. Le chef de bureau de l'EDF de Tombouctou nous explique le contexte. Firoun Meiger.
Elle rentre dans le cadre de une mission que la Commission nationale de guerre a organisée du 11 au 15 dans la région de Tombouctou, où en concertation avec les différentes bases, la question de l'élaboration des listes s'était posée, les difficultés qui l'entravent et en même temps les souhaits et les possibilités de pouvoir actualiser ces listes.
Après cette étape de formation, les chefs de base procéderont au recensement des combattants. Nom, prénom, situation familiale, numéro d'armes tenues par le combattant, le site de son choix pour le camp. Ce qui reste à savoir, est-ce que toutes les parties sont décidées à aller à ce cantonnement? Almou Ag Mohamed, porte-parole SEMA.
Du côté de la SEMA, tout est fin prêt pour aller à toute la mise en œuvre de l'accord. Nous, au niveau de la SEMA, on ne parle pas d'une mise en œuvre sélective de l'accord. On parle d'une mise en œuvre globale de l'accord. Vous savez que dans cet accord, il y a des dispositions politiques institutionnelles, il y a des dispositions relatives à la défense et à la sécurité, des dispositions relatives au développement économique social et culturel et les dispositions relatives à l'humanitaire. Donc, au niveau de la SEMA, nous sommes prêts à aller à une mise en œuvre globale, efficiente et diligente de l'accord sur tous ces points, y compris le plan de défense et sécurité dans lequel est inscrit ce programme national d'aide.
La plateforme, depuis sa création, est un allié du gouvernement malien. Ghana Ould Mohamed, plateforme.
La plateforme est présente sur tous les terrains, partout, et surtout quand il s'agit de la paix, quand il s'agit de la stabilisation et quand il s'agit de la cohésion sociale, la plateforme est toujours prête pour vraiment jouer pleinement son rôle dans la mise en œuvre de l'accord de paix.
Depuis la signature de l'accord d'Alger, sa mise en œuvre incombe aux 3 parties. Malgré les efforts de part et d'autre, des difficultés ont émaillé tout le processus. Colonel Major Baba Ahmed, Commission nationale DDR.
Il y a des difficultés à chaque fois. Il y a un des partis qui se retire, il y a un des partis qui boycotte, il y a des. C'est ça, des difficultés. Sinon, le gouvernement, depuis le début, nous, on était prêts. On a ouvert les bureaux dans toutes les régions. Les chefs de bureau sont désignés. On est prêts pour recevoir ces combattants et appliquer ce qui est dans l'accord d'Alger.
Abdoulaye Traoré, Tombouctou pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Suite de la tournée africaine du président turc Recep Tayyip Erdogan, le leader turc est aujourd'hui à Dakar au Sénégal, après avoir fait escale mercredi à Nouakchott en Mauritanie. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
C'est la première visite d'un chef d'État turc en Mauritanie. Recep Tayyip Erdogan est arrivé hier après-midi à Nouakchott pour une visite de quelques heures. Accompagné d'une importante délégation d'hommes d'affaires, M. Erdogan a été accueilli par son homologue Mohamed Ould Abdelaziz. Le président turc a signé plusieurs accords de coopération dans les domaines de la pêche, de l'agriculture, mais aussi dans les hydrocarbures et les mines. Le chef de l'État turc a quitté la Mauritanie en début de soirée pour se rendre au Sénégal, avant-dernière étape d'une tournée africaine qui s'achèvera vendredi au Mali. Depuis son arrivée au pouvoir en 2003, M. Erdogan a entrepris de renforcer les liens entre la Turquie et le continent africain. Il s'efforce également de combattre l'influence du prédicateur turc Fethullah Gulen, qui a ouvert plusieurs écoles sur le continent. Ankara l'accuse d'avoir fomenté le putsch manqué en 2016.
A noter que le président Erdogan a annoncé à Nouakchott une contribution de la Turquie de 5 millions de dollars pour financer le G5 Sahel, la force militaire constituée par 5 pays africains pour lutter contre les groupes djihadistes actifs au Sahel. Les pays en question, Mali, Mauritanie, Burkina Faso, Niger et Tchad. Afrique centrale maintenant, RCA, la MINUSCA, la mission de l'ONU sur place, condamne le meurtre d'un employé de l'UNICEF et de 5 autres travailleurs humanitaires. Ils ont été tués dimanche lors d'une attaque dans le nord-ouest du pays, John Lindon.
L'attaque s'est produite alors que le groupe se rendait à Markunda, dans une zone reculée proche de la frontière tchadienne. Les nationalités des personnes tuées n'ont pas immédiatement été révélées. En août dernier, des inconnus avaient tué 6 volontaires de la Croix-Rouge dans le sud-est du pays, un mois à peine après la mort d'un autre humanitaire tué par un groupe armé à Bangassou. Nous condamnons vivement cet acte insensé contre des coopérants humanitaires qui venaient pour améliorer la vie des populations les plus vulnérables, a déclaré hier la directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, Marie-Pierre Poirier.
Le groupe d'études sur le Congo, le GEC de l'Université de New York, a recommandé aujourd'hui que la mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO, devrait suspendre son soutien au processus électoral à la République démocratique du Congo si les conditions pour des élections crédibles en fin d'année ne sont pas réunies. Le Conseil de sécurité devrait faire de la tenue d'élections crédibles la principale priorité de la MONUSCO au cours de la prochaine année, écrit le GEC dans un rapport alors que les Nations Unies s'apprêtent à renouveler le mandat de la MONUSCO avec le vote d'une nouvelle résolution d'ici au 31 mars. Actualité aux États-Unis, le président Donald Trump continue ses attaques contre Jeff Sessions, son ministre de la Justice. Le chef de l'exécutif américain a jugé honteux hier son choix pour diriger l'enquête sur d'éventuels abus dans les écoutes téléphoniques. Plus de détails avec Yacouba Ouédraogo.
Le président Donald Trump s'est demandé pourquoi Jeff Sessions, ministre de la Justice, a instruit l'inspecteur général d'enquêter sur les possibles abus de la FISA, la cour qui détaille les conditions dans lesquelles une personne peut être placée sur écoute. L'inspecteur général n'a-t-il pas été nommé par Obama? Pourquoi ne pas avoir recours aux juristes du ministère de la Justice? Honteux, a déclaré le locataire de la Maison-Blanche. Ancien sénateur de l'Alabama, le conservateur Jeff Sessions, soutien de Donald Trump durant sa campagne, est souvent la cible des piques du président américain. Il reproche à son ministre de la Justice de s'être récusé dans l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle américaine, une affaire qui empoisonne sa présidence. De son côté, M. Sessions a affirmé qu'il va continuer à accomplir son devoir, je cite, « avec honneur et intégrité ». Ce ministère va continuer à faire son travail de façon juste et impartiale, dans le respect de la loi et de la Constitution, a conclu Jeff Sessions.
États-Unis toujours, l'administration Trump exhorte la communauté internationale au cours d'une conférence à Washington à renforcer l'arsenal civil contre les djihadistes du groupe État islamique pour prolonger les succès militaires en Irak et en Syrie. C'était lors d'une réunion hier à Washington. Le gouvernement américain a mis en avant 3 outils pour poursuivre le combat. D'abord les sanctions financières, ensuite la généralisation du Passenger Name Record, un registre des données des passages aériens, et pour terminer, L'administration appelle ses alliés à renforcer l'usage de la biométrie pour améliorer le contrôle aux frontières.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.